RFI, il est 13h à Paris, 7h à Washington.
Juliette Pietraszewski.
À la une de ce journal, l'effet Taylor Swift sur la présidentielle américaine. Après l'annonce de son soutien à Kamala Harris, la candidate démocrate, les visites sur le site internet des inscriptions pour voter explosent. Analyse de ce phénomène dans un instant. À suivre aussi en Europe centrale, les craintes de dégâts dévastateurs face au cyclone Boris. La République tchèque s'organise avec les secours pour faire face à une montée brutale des cours d'eau dans plusieurs régions. L'économie chinoise à la traîne, la reprise post-Covid tant espérée a finalement été brève. On fera le point sur cette tendance. Et puis à Paris, la parade des champions aux Champs-Élysées débute à 16h, l'occasion de prolonger les scènes de liesse que la France a vécues pendant les Jeux. Aux États-Unis, les inscriptions pour voter lors de la prochaine présidentielle sont en nette augmentation depuis quelques jours. Et c'est sans doute l'effet Taylor Swift qui produit ce regain d'intérêt pour la politique américaine. Le soutien officiel à Kamala Harris de la chanteuse à l'aura internationale est en train de booster la plateforme de vote de la présidentielle. Oriane Verdier, bonjour.
Bonjour.
Le nombre de visites sur le site dédié aux inscriptions électorales a donc explosé.
Oui, et c'est surtout dans les premières 24 heures suivant le message de la chanteuse sur Instagram que 400 000 personnes ont accédé au site gouvernemental d'information sur les inscriptions aux listes électorales via le compte Instagram de Taylor Swift. Ce même site avait reçu environ 30 000 visiteurs par jour la semaine précédente. Il y a donc une grosse augmentation. L'artiste à la renommée planétaire ne s'est pas contentée d'annoncer qu'elle donnerait son vote à la candidate démocrate. Elle a également appelé ses fans à s'inscrire donc sur les listes électorales et à voter pour la présidentielle, particulièrement les plus jeunes qui voteront pour la première fois. La star aux 284 millions d'abonnés a ensuite publié une story avec le lien direct du site d'information du gouvernement vote.org. Aux États-Unis, l'âge légal pour voter est de 18 ans et le nombre d'inscriptions des jeunes sur les listes électorales est en baisse. Leurs votes ont joué un rôle décisif dans la victoire du président démocrate Joe Biden en 2020. Il avait recueilli environ 61% des votes des électeurs âgés de 18 à 29 ans.
Merci pour vos précisions, Oriane Verdier. En Ukraine, l'armée russe a affirmé aujourd'hui la reprise d'un nouveau village dans l'Est. Les troupes de Moscou continuent de gagner du terrain dans la région de Donetsk cette dernière semaine. De son côté, l'Ukraine a lancé début août une attaque d'ampleur dans la région russe de Koursk et s'est emparée de plusieurs centaines de kilomètres carrés selon Kiev. Elle espérait contraindre Moscou à redéployer ses troupes qui sont dans la région de Donetsk. En parallèle, la Russie a annoncé il y a quelques minutes avoir échangé avec l'Ukraine 103 prisonniers de chaque camp. Toujours dans ce contexte, le président américain Joe Biden va rencontrer ce mois-ci le président ukrainien, a déclaré Volodymyr Zelensky lui-même. En parallèle, hier, des discussions à Washington étaient également en cours entre les États-Unis et le Royaume-Uni. Les deux pays temporisent sur un éventuel feu vert à Kiev pour utiliser des missiles livrés par les alliés pour toucher le territoire russe. Le sujet est sensible et pourrait être à l'origine d'une nouvelle poussée de tensions entre Moscou et les alliés occidentaux de Kiev. Les prochains mois et semaines pourraient être décisifs dans la guerre, a souligné hier le Premier ministre britannique Keir Starmer. L'Europe centrale est par ailleurs menacée par le cyclone Boris ce week-end. On redoute les pires inondations depuis des décennies. En République tchèque notamment, la population, les autorités et les services de secours s'apprêtent à faire face à une montée brutale des cours d'eau dans plusieurs régions. À Prague, Alexis Rosenzweig.
La situation est toujours compliquée et relativement inquiétante avec le niveau des cours d'eau toujours en train de monter et la pluie qui ne cesse de tomber ici à Prague où des barrières anti-inondation sont érigées dans plusieurs parties de la ville. Certains quartiers avaient été dévastés pendant les dernières grandes crues de l'année 2002, mais c'est surtout cette fois-ci dans le nord du pays, dans les montagnes à la frontière avec la Pologne que la situation est la plus inquiétante. À l'heure actuelle, notamment dans les régions de Friedland et de Jesenik, le sud de la Bohême est également concerné. Près de l'Autriche, il y avait déjà samedi matin près de 150 localités en niveau d'alerte inondation et une trentaine de communes au niveau d'alerte maximale avec des plans d'évacuation en train de se mettre en place en ce moment. Les transports sont compliqués par le vent qui fait chuter les arbres sur les voies de communication. Selon les autorités tchèques, les prochaines heures s'annoncent déjà cruciales. À Prague, le niveau de l'eau devrait monter encore toute la journée pour atteindre son point le plus haut dans la nuit de samedi à dimanche. Alexis Rosenzweig, Prague, RFI.
Des inondations ont aussi touché l'Asie du Sud-Est dernièrement. En Birmanie, la junte au pouvoir a demandé de l'aide étrangère après des inondations meurtrières dues au passage du typhon Yagi. Une démarche rare alors qu'au moins 33 personnes sont mortes dans ces phénomènes climatiques. Plus de 235 000 habitants ont également quitté leur habitation ce samedi, selon des médias d'État. Au total, dans la région, près de 300 morts ont été décomptés en Birmanie, au Vietnam, au Laos et en Thaïlande. Dans ces inondations et glissements de terrain également survenus après le passage du typhon Yagi. On reste sur le continent asiatique. L'économie chinoise est à la traîne. Les ventes au détail, principal indicateur de la consommation des ménages ainsi que la production industrielle ralentissent au mois d'août. Cela démontre que la reprise post-Covid tant espérée a été brève et moins robuste que prévu. Agnieszka Kumor.
Plus d'un an et demi après la levée des restrictions sanitaires, Pékin a de grandes difficultés pour relancer durablement son économie. Les ventes au détail n'ont progressé que de 2,1% au mois d'août, après un rebond de 2,7% en juillet. Tassement également de la production industrielle chinoise, 4,5% après 5,1% le mois précédent. La Chine fabrique toute une gamme de produits, des machines industrielles ou agricoles, aux voitures en passant par les téléphones. Elle fournit au monde des équipements électriques et électroniques ainsi que des vêtements, du textile et des chaussures. Mais cette activité manufacturière ralentit. Les usines chinoises ont moins de commandes à cause notamment de la faible demande intérieure. La publication de ces chiffres intervient au lendemain de l'annonce par Pékin du recul de l'âge de départ à la retraite, et ce face à la baisse de la natalité et au vieillissement de la population chinoise qui menace l'équilibre du système des retraites actuel.
Agnieszka Kumor. En Ouganda, les funérailles de l'athlète Rebecca Cheptegei ont eu lieu ce matin. La jeune femme avait été aspergée d'essence et immolée par le feu par son compagnon début septembre au Kenya, soit quelques semaines après avoir couru le marathon des JO de Paris. L'athlète de 33 ans a succombé à ses graves et multiples blessures. C'était le 5 septembre dernier. Son décès a provoqué une vague internationale d'hommages et d'indignation. Des militants des droits humains ont dénoncé ce nouveau féminicide au Kenya, alors que depuis 2021, deux autres athlètes, Agnès Tirop et Damaris Mutua, ont aussi été tués par leurs compagnons respectifs. En France, avant l'annonce du gouvernement du nouveau Premier ministre Michel Barnier, les Outre-mer plaident pour un nouveau ministre à la hauteur de l'urgence. Des élus de ces territoires souvent minés par le chômage et l'inflation plaident pour un ministre à la hauteur de l'urgence. Donc, pour rappel, depuis 2017, 6 ministres des Outre-mer se sont succédés pour gérer les départements et collectivités françaises d'outre-mer. En parallèle, Marine Le Pen, la chef du Rassemblement national, le parti d'extrême droite français, appelle à une nouvelle dissolution de l'Assemblée nationale. C'est celui qui a fait le moins de voix qui est chargé de constituer un gouvernement, a-t-elle déclaré aujourd'hui en pointant du doigt le Premier ministre. En France toujours et plus précisément à Paris, les Champs-Élysées accueillent dès 16h la parade des athlètes des Jeux Olympiques et Paralympiques. L'hymne officiel de ces Jeux est disponible depuis hier sur les plateformes numériques. Ce morceau, intitulé « Parade », a très vite marqué les esprits. Vous l'avez sans doute entendu des dizaines de fois, voire des centaines. Son compositeur, Victor Lehmann, le directeur de la musique des JO, nous en parle.
J'ai utilisé en fait des codes et des genres qui ne sont pas censés toujours se rencontrer, notamment le symphonique. Il y a une phase quasiment de tragédie grecque avec ces grands chœurs du chœur de Radio France. Il y a l'Orchestre National de France, donc il y a ce côté très majestueux que seul le symphonique, je crois, peut emmener. Et ensuite, progressivement, on rentre dans un grand crescendo de nuances et également de tempo dans la pop, dans la musique électronique, dans la joie, en fait, dans la fièvre, dans la danse, etc. Et donc, c'est vrai que le fait, peut-être, d'avoir mélangé ces styles de manière assez inédite, je crois, peut-être que ça lui a donné un genre particulier.
Par Edmond Sadaka, c'était Victor Lehmann, le compositeur de cette musique qu'on gardera en tête pendant un certain temps. RFI, il est 13h09 à Paris, merci de nous écouter.